Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Alors, il y a une phrase que vous connaissez certainement tous. Amadou Ampateba l'a prononcée devant l'UNESCO en 1960. Il a dit, et je cite, « En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. » Fin de citation. Cette phrase a été applaudie et reprise pendant près de 60 ans ou plus de 60 ans. Et nous l'avons imprimée sur des banderoles, brodée sur nos pagnes, citée dans nos discours. Mais laissez-moi vous dire ce matin une chose que peu de personnes ont osé dire. Une bibliothèque ne brûle vraiment que si personne n'a lu ses livres. Le drame de notre génération, ce n'est pas que les pères meurent. Les pères ont toujours fini par mourir. Abraham est mort. Moïse est mort. Paul est mort. Certains d'entre nous, on a perdu nos pères biologiques. Le drame, chers frères et sœurs en Christ, n'est pas qu'ils meurent, mais c'est qu'ils meurent sans avoir été écoutés. Ce n'est donc pas la bibliothèque qui brûle, c'est le lecteur qui a disparu. Il y a un paradoxe dans notre temps, dans notre ère, que j'aimerais mettre en lumière. Si vous regardez clairement ou de manière précise à notre époque, vous allez vous rendre compte que jamais une génération n'a autant entendu de sons. Plusieurs ont des écouteurs dans les oreilles du matin au soir. Plusieurs écoutent des podcasts, des lives, des notifications, des messages vocaux, des prédications à volonté dans le téléphone, tablette. Nous sommes, à mon sens, la génération la plus branchée de toute l'histoire humaine. Et pourtant, jamais une génération n'a aussi peu entendu. Nos enfants entendent le mot de passe du Wi-Fi murmuré à 3 pièces de distance. Mais lorsqu'on leur dit « viens débarrasser la table », ça, mystérieusement, ça ne passe pas. Le réseau est mauvais précisément à ce moment-là. Il y a donc une surdité qui n'est pas dans l'oreille, elle est ailleurs. Et cette surdité n'épargne pas les adultes. Quand vous regardez vos Bibles, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a un circuit que très peu de gens voient. Dieu ouvre la bouche et une oreille reçoit. De sa bouche, dit les Saintes Écritures, sortent la connaissance et l'intelligence. Ce que je veux que vous ayez à l'esprit ce matin, alors que j'introduis mes propos, je vais aujourd'hui clôturer la série que nous avons entamée avec vous au mois de début du mois, au début de ce mois, sur honneur, reconnaissance et transmission spirituelle. L'un des mystères qui, de mon point de vue, est digne d'être écrit, c'est que l'héritage spirituel ne circule pas toujours dans le sang. Il circule par l'oreille. S'il y a des choses qui voyagent dans le sang, il y en a d'autres qui ne voyagent que lorsqu'il y a une oreille qui est d'accord d'écouter. Le jour où une oreille se ferme, ce n'est pas une conversation qui s'arrête, c'est toute une lignée qui est coupée. Voici la vérité que je veux poser et qui va gouverner tout ce message. L'honneur que tu dois à un père ne se mesure pas d'abord à ce que tu lui offres. Il se mesure à ce que tu es capable d'entendre. Alors, il y a 3 vérités ce matin dans le temps qui m'est imparti, que j'aimerais partager avec vous. Et si je n'arrive pas à tout dire, je ne tromperai pas mon message. Je partagerai certaines des pensées que j'ai pour mon culte suivant. Mais pour vous qui prenez des notes, et vous faites bien de le faire, voici les trois vérités que je vais essayer de partager avec vous. La première, c'est qu'il y a une façon d'entendre. La deuxième, c'est qu'il y a une façon d'observer. Et enfin, il y a une façon de confier. Je reprends, il y a une façon d'entendre, il y a une façon d'observer, et il y a une façon de confier. Le thème de mon homélie est le suivant. À ceux qui entendent. A, accent grave. Ceux, C-E-U-X. Qui entendent. À ceux qui entendent. C'est à vous que je parle ce matin. Ouvrons s'il vous plaît nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 2. On lira le verset 1 et on terminera la lecture au verset 6. Proverbes 2, 1 à 6. Cette fois-ci, on va lire ensemble 1, 2, 3. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. C'est Salomon qui parle, il semble, et regardez comment il commence. Si tu reçois, si tu gardes, si tu rends ton oreille attentive, si tu inclines ton cœur, si tu appelles, si tu cherches. Je crois qu'il y a six fois six conditions, et ce n'est qu'au verset 5 qu'arrive enfin le « alors ». Remarquez que la compréhension vient en dernier lieu. Ce qui vient avant la compréhension, c'est l'écoute. Beaucoup de gens veulent comprendre avant d'obéir. Ce que le texte révèle, c'est qu'il faut écouter avant de comprendre. Entendre n'est pas un accident. Le Père ne dit pas « si mes paroles t'atteignent », il dit « si toi tu reçois ». Ça veut dire que l'oreille du Fils doit se pencher. En hébreu, « rends ton oreille attentive », c'est le verbe « kashab », Q-A-S-H-A-B. Ce verbe est identifié ou du moins représenté par le geste de l'animal qui dresse l'oreille, qui se fige et qui oriente tout son corps vers un son. Rendre son oreille attentive n'est pas passif. En fait, c'est une tension du corps entier. On peut entendre un son sans jamais l'écouter. On peut avoir deux oreilles grandes ouvertes et un cœur verrouillé. On peut avoir des oreilles et ne rien entendre. Permettez-moi de poser un fondement. Ensuite, je vous parlerai à vous directement. Pour les raisons de contexte, de compréhension, notre langue confond deux réalités que les neurosciences distinguent nettement. Entendre en français est traduit en anglais par le verbe « to hear », H-E-A-R. Ce verbe fait référence au fait que vous ayez des oreilles qui fonctionnent. Un autre mot, c'est le verbe « ouïr », O-U-I-T-R-E-M-A-R. Vos tympans captent des vibrations que vous le vouliez ou non. si quelqu'un tape des mains, tu as entendu le son. Mais un autre mot qui souvent est utilisé de manière interchangeable, surtout dans le vieux français, quand on parle d'entendre, on parle d'écouter. Et en anglais, c'est to listen. Ce verbe est cognitif, actif et volontaire. Ça veut dire que ton cerveau décide de traiter, de retenir et d'intégrer quelque chose. Nous ne retenons qu'une fraction de ce qui traverse nos oreilles. Pourquoi ? Parce que l'attention est un choix. Ça fait des années que je me tiens devant des hommes et des femmes pour parler. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui peuvent entendre et ne pas être attentifs à ce qu'ils entendent. C'est pour ça que, après avoir été à un culte, on a fait des annonces. Si je demande à quelqu'un à la fin du culte, qu'est-ce qui a été dit ? La personne dit, on n'en a pas parlé. Pourquoi ? Parce que quand bien même ses oreilles ont entendu ce qui a été dit, son cerveau n'était pas attentif. Alors, c'est majeur donc que vous sachiez que vous n'êtes pas transformé par ce que vos oreilles entendent. Vous êtes transformé par ce que votre cœur reçoit. Rends ton oreille attentive. Ce que Salomon dit, c'est qu'il y a une responsabilité sur celui qui entend, d'obliger son oreille à écouter. Nous vivons dans une économie de la distraction. Des industries entières, parmi les plus puissantes de la planète, sont bâties pour capter votre attention et la revendre au plus offrant. Votre oreille est devenue un marché. Et voici ce que j'ai écrit dans mes notes. Une oreille qui appartient à tout le monde n'appartient plus à personne. Surtout plus à son père. Je veux parler à cette nation. Le Gabon traverse une saison de reconstruction. On parle de bâtir, de refonder, de rebâtir, de repartir. Mais je vous le dis avec autorité, aucune nation ne se reconstruit avec des enfants qui n'écoutent plus leur père. Regardez nos langues. Combien de nos enfants ne parlent plus la langue de leurs grands-parents ? Le fan, le pounou, le nzebi, le teke, le miené. Voyez-vous, quand une langue s'éteint, ce n'est pas un dictionnaire qui disparaît. C'est une manière entière d'entendre le monde qui s'efface. Nos anciens parlent encore dans nos villages, dans nos familles, mais qui incline l'oreille ? Une génération qui n'entend plus ses pères est une génération qui a déjà commencé à mourir. Elle ne le sait simplement pas encore. Dans toute la Bible, l'oreille est le premier organe que Dieu consacre. Quand on consacrait à Aaron comme prêtre, on prenait du sang et on en mettait premièrement sur le lobe de l'oreille droite. Si tu peux mettre Lévitique, s'il te plaît, 8:23. J'essaye d'aller un peu doucement parce que c'est le... Au-delà de provoquer des impressions, je veux travailler à modifier votre psyché, votre psychique, votre façon de penser. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Regardez l'ordre. D'abord l'oreille, ensuite la main et enfin le pied. Ça veut dire qu'avant que tu ne serves, Dieu veut que tu entendes. Avant que tu ne bouges, Dieu veut que tu entendes. Si tu bouges sans entendre, même si tu vas vite, tu peux aller vite dans la mauvaise direction. Le plus important n'est pas d'être en mouvement. Le plus important, c'est d'entendre, ensuite d'obéir. Ce n'est pas d'abord de faire. Jésus dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu te préoccupes de beaucoup de choses, mais Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. Pendant que Marthe était occupée au service, Marie était occupée à entendre. Mets la main sur ton oreille droite et prie. Après moi, dis Seigneur, je consacre mon oreille à l'écoute de ta voix. Je sais que tu parles. Aide-moi à entendre. Amen. Dans Exode 21, toujours par rapport aux lois que Dieu donne à Moïse et au peuple d'Israël, Dieu révèle que lorsqu'un serviteur, un esclave, est libéré par son maître, au jour de sa libération, il pouvait partir libre. Mais s'il disait « J'aime mon maître, je ne veux pas sortir libre », qu'est-ce qu'on faisait ? On le conduisait à la porte, on lui perçait l'oreille avec un poinçon. L'oreille percée était la marque de celui qui avait entendu et qui avait choisi de rester par amour. Je suis esclave, mon maître me libère. Je ne veux pas le quitter parce que je l'aime. Pour que tout le monde sache que je suis resté par choix, on me perçait l'oreille. Certains d'entre nous, nous ne sommes pas avec Christ par choix. Nous fuyons l'enfer. Nous fuyons les problèmes, nous fuyons l'échec. Nous fuyons le manque. Si là, tout de suite, Jésus te disait, quel que soit comment tu vis, tu n'iras plus en enfer. Ton éternité est garantie. C'est ça le salut normalement. Once saved, always saved. Ton éternité est garantie. D'ailleurs, quel que soit comment tu vis, je vais te bénir. Mais voici ce que je veux pour toi, c'est que tu écoutes ma voix. Certains, vous allez lui dire, ta voix c'est quoi? Ma volonté, c'est que tu écoutes et que tu obéisses. Mais fais comme tu veux, de toutes les façons, je te bénirai. Beaucoup d'entre vous n'auraient pas l'oreille percée. Parce que vous n'êtes pas avec Dieu par choix, vous êtes avec Dieu par peur. L'une des choses avec lesquelles j'ai beaucoup de mal, vraiment énormément, et je pense que c'est peut-être dû à mon éducation ou beaucoup plus dû à comment je suis façonné, fabriqué. J'ai du mal avec les gens qui n'écoutent pas quand les autres parlent. Si on est dans une conversation, toi et moi, je vais prendre le temps de t'écouter, la peine de t'écouter. Après t'avoir écouté, lorsque mon tour arrive de parler, que j'ai le sentiment que tu m'interromps à chaque fois, je me ferme. Pourquoi? Parce que je considère que l'une des preuves du respect envers quelqu'un, c'est l'écoute. Tu peux ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais parce que tu me respectes, permets-moi de dire ce que je veux dire. Et alors qu'on parle d'honneur, de reconnaissance et de transmission spirituelle, l'une des choses qui est difficile, lorsqu'un père s'adresse à ses fils ou à ses filles, c'est d'avoir le sentiment qu'il n'est plus écouté, qu'il n'est plus entendu. Qu'à chaque fois qu'il parle, la personne à laquelle il s'adresse pense déjà à sa réponse. C'est possible, lorsque quelqu'un parle, de ne pas l'entendre, mais d'entendre ce qu'on va lui répondre. Le Père ne désire pas seulement que tu l'entendes quand il te parle à toi en tête à tête. Le Père désire que tu l'observes quand il parle aux autres. C'est mon deuxième point. J'ai dit, premièrement, il y a une façon d'entendre et deuxièmement, il y a une façon d'observer. Je vais relire le texte de Timothée 2. Cette fois, je commence à partir du verset 2 et je lirai jusqu'au verset 6. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Si c'est votre Bible, soulignez la phrase ou soulignez les mots en présence de beaucoup de témoins. Voici ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Il dit, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Uriel, tu peux changer. Arrêtez-vous là. Paul ne dit pas ce que je t'ai chuchoté en secret. Il dit ce que tu as entendu de moi devant beaucoup de témoins. Le fils ou la fille véritable n'apprend pas seulement du père quand le père le prend à part. Le fils véritable observe le père quand le père parle aux autres. Il regarde comment le père corrige, comment le père reprend un frère, comment le père se comporte quand il pense que ce n'est pas à lui qu'il s'adresse. C'est là, dans le public, que le modèle se donne tout entier. Beaucoup de personnes veulent le père en tête à tête, mais peu arrivent à l'observer en public. Un fils qui n'honore le père qu'en privé et qui le critique en public n'a rien entendu du tout. J'aurais aimé, comme vous, avoir marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. J'aurais aimé, comme vous, avoir été là quand Jésus a dit « Qu'est-ce qu'on dit de moi dehors ? Que dites-vous de moi dedans ?» J'aurais aimé avoir été avec Jésus sur la montagne de Transfiguration. J'aurais aimé voir la nuée recouvrir l'ensemble de la montagne et entendre cette voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». J'aurais aimé être là quand Jésus marchait sur les eaux. J'aurais aimé, même si j'avais pas été Pierre, j'aurais aimé être dans la barque au moment où Pierre est sorti. J'aurais aimé. Mais voyez-vous, j'ai remarqué que tous ceux qui ont fréquenté Jésus n'ont pas changé de vie. Jésus a marché avec des gens qui, au final, l'ont lapidé, l'ont crucifié. Donc, ce n'est pas la fréquentation qui change la vie. Ce n'est même pas la proximité qui fait de toi un fils véritable. Ce qui prouve ta filiation, c'est ta capacité à entendre et à mettre en pratique. Tu n'es pas fils parce que tu es proche. Tu es fils parce que tu entends et tu appliques. Ce matin, en préparant ces moments, la lutte intérieure que j'avais, puisque j'avais plusieurs messages, c'est de réussir à prendre cette vérité spirituelle et à vous la donner en vous expliquant en quoi est-ce que c'est important ou pourquoi c'est important pour votre vie. Donc, laissez-moi, dans le temps qu'il me reste, essayer de vous aider. Je parlais avec les pasteurs ce matin en pastoral. Et je leur racontais ce témoignage d'un homme de Dieu, fils de notre père, l'évêque général, qui a une église et qui m'a reçu et qui, en me présentant, a d'abord fait une éloge, a présenté l'évêque général. Il a dit ceci. Quoiqu'étant de la même génération ministérielle, il a regardé à la vie de l'évêque général. Et il a remarqué que l'évêque général avait les résultats que lui n'avait pas. Voici ce qu'il s'est dit. Il dit, si Mike Joktan a ce que je n'ai pas, c'est qu'il sait ce que je ne sais pas. Et il a dit, au lieu de me battre, à trouver ce qu'il sait pour avoir différents résultats. Je vais me rapprocher de lui et je vais lui demander de devenir mon père. Lorsqu'il est reçu par l'évêque général lui demande, « Ok, tu viens vers moi, quel est ton but? Est-ce que tu veux que je sois ton mentor ou que je sois ton père ?» Et l'homme de Dieu lui a dit, « Je ne veux pas que tu sois mon mentor. » Une autre façon d'utiliser, un autre mot pour mentor, c'est maître. Je ne veux pas que tu sois mon maître, je veux que tu sois mon père. Parce que l'héritage n'est pas pour les élèves. Je vais vous dire ça différemment. Les maîtres que vous avez eus à l'école vous ont transmis un savoir, mais ils ne vous ont pas donné un héritage. L'héritage, c'est juste pour les enfants, c'est seulement pour les enfants, parfois qui n'étaient pas dans votre classe, qui n'écoutaient pas forcément ce que vous entendiez, mais pour qui ils avaient travaillé et à qui ils disaient à la maison de vivre d'une certaine façon. J'ai eu certains de mes professeurs qui avaient dans la classe qui était la mienne leurs enfants. Et vous savez que lorsque vous avez dans la classe votre enfant, vous êtes plus dur avec votre enfant qu'avec les autres élèves. Et si cet enfant n'est pas mature, il le prend comme de l'injustice. Parce qu'il dit, c'est pas normal. Normalement, parce que je suis ton fils ou ta fille, je devrais bénéficier d'un traitement de faveur. Vous êtes là ou vous êtes là? Alors, cette logique est la logique de personnes immatures. Parce que les personnes matures comprennent que le traitement de faveur, c'est la discipline. C'est la dureté. C'est que eux, ils peuvent échouer parce que de toutes les façons, ça va regarder leurs parents. Voilà. Mais si toi, tu échoues, c'est mon héritage qui va s'arrêter. Amen. Ce que Paul dit à Timothée me dérange. Parce que la première chose qu'il dit à Timothée, il dit ce que tu as entendu de moi. S'il s'était arrêté là, je me serais dit, Paul a pris Timothée à part, l'a fait asseoir, l'a enseigné, lui a enseigné les principes de la foi, lui a montré le chemin, lui a révélé comment Dieu lui est apparu et lui a donné les secrets. Mais j'entends Paul qui dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de plusieurs témoins. Ça veut dire que Paul dit à Timothée, ce que je t'ai dit devant les gens a autant de valeur que ce que je peux te dire en secret. Beaucoup veulent le rapport privilégié avec l'homme ou avec la femme de Dieu, mais ne se rendent pas compte que la transmission de l'héritage ne se fait pas toujours en secret. Mon Dieu, vous allez m'entendre. Ce que tu as entendu de moi devant les gens, donne-le à d'autres. Donc l'héritage, c'est ce que tu entends de moi. Là, je parle, vous êtes tous là. Pendant que je dis tout ce que je dis, il y a des gens qui entendent et il y en a d'autres qui n'entendent pas. Dans vos Bibles, c'est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Ça veut dire qu'entendre n'est pas un problème d'oreille, entendre est un problème de cœur. Et le piège, justement, quand on parle d'entendre en public, c'est qu'on se dit, tant qu'il ne s'adresse pas à moi directement, il ne s'adresse pas à moi. Je suis, on est en 2015 ou 2016, l'évêque général est en train de prêcher un dimanche matin. Nous sommes au centre-ville. Et à un moment, pendant qu'il prêche, il parle de dynamis. Et il parle comment, il raconte du moins comment Dieu l'a utilisé et comment dans sa génération, il a répondu à l'appel divin. Et il se tourne à un moment. Je suis à sa droite, là où je suis en tant que pasteur responsable à l'époque. Il se tourne vers moi et il dit, c'est lui que j'attends, c'est toi que j'attends. Pendant qu'il parle, on est tous là. Les gens entendent les mêmes mots que moi, mais n'entendent pas la même chose que moi. C'est ce jour-là que je prends la décision de réouvrir le puits d'Alte. À un culte où tout le monde a entendu l'évêque parler de dynamis, raconter son témoignage et se tourner en disant, c'est toi que j'attends. Ce que le peuple ne sait pas, c'est que je suis en prière depuis un moment sur les croisades et les conférences. Et dans mon cœur, je parle à Dieu en disant au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et je cherche cette voix que beaucoup disent qu'ils ont entendu dans le secret de leur chambre, où Dieu vient te dire, voici ce que je ferai avec toi. Je jeûne et je prie, sauf que Dieu ne me répond pas dans ma chambre. Dieu me répond à un culte en public. Beaucoup d'entre vous, les gens m'ont dit encore et encore, évêque ou pasteur à l'époque, je priais, j'avais une question, je voulais même te voir, mais Dieu m'a répondu pendant le culte. Combien de fois est-ce que c'est autour, durant un message, que Dieu a apporté la lumière, que Dieu a donné une direction? Mais dans le même culte, il y a des gens qui repartent en disant simplement, c'est un bon culte. Pourquoi? Parce que quand bien même on a tous entendu la même chose, on n'a pas entendu la même chose. Ton destin dépend de ce que tu es capable d'entendre quand Dieu parle à tout le monde. Voilà pourquoi je ne soupire plus après les paroles de connaissance. Je ne soupire plus après le réma. S'il y a une chose après laquelle je soupire, c'est le logos. Parce que ce qui a fait le monde, ce n'est pas le réma. À chaque fois que Dieu veut créer un nouveau ciel, une nouvelle terre, Dieu ne donne pas un réma. Dieu donne un logos. Au commencement était le logos, le verbe, la parole. La parole, le logos était avec Dieu, le logos était Dieu. Le logos est Dieu. Donc quand Dieu te donne le logos, il te donne ce qu'il est. Tu n'as donc pas besoin que quelqu'un te pointe du doigt en te disant « Lève-toi, ainsi parle l'Éternel, tu habites dans tel quartier. » Ce n'est pas qu'on néglige les prophéties ou qu'on les méprise, mais c'est qu'on dit « Ce ne sont pas les prophéties qui doivent diriger notre vie. » Ce qui doit diriger notre vie, c'est le logos. Ce qui doit diriger notre vie, c'est la parole de Dieu. Pas la parole de connaissance, pas la parole prophétique. Qu'est-ce que Dieu te dit quand Dieu parle à tout le monde?
C'était « À la découverte de soi », le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. « À la découverte de soi » vous est proposé par MA Organisation.